Il est 22h30 à Abidjan. Merci d'écouter Radio France Internationale en direct de Paris. Il est 23h30.
Afrique Soir sur RFI, Zéphirin Quadio.
Bonsoir à toutes et à tous. En Côte d'Ivoire, Simone Eyvé, candidate à la présidentielle d'octobre 2025. L'ex-épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo a été désignée cet après-midi lors de la première convention de son parti, le Mouvement des Générations Capables. Les Namibiens attendent toujours les résultats partiels des élections générales, des scrutins chaotiques qui se sont achevés ce samedi après 4 jours de vote. Le principal opposant a prévenu qu'il ne reconnaîtrait pas ses résultats. Et puis l'Afrique du Sud assurera la présidence du G20 dès ce dimanche. C'est la 4e année consécutive qu'un pays issu du Sud global prend la tête de ce forum économique. Et c'est aussi la première fois qu'il sera présidé par un pays africain. À moins d'1 an de la présidentielle en Côte d'Ivoire, Simone Eyvé est officiellement candidate. L'ex-épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo a reçu l'investiture de son parti, le Mouvement des Générations Capables. 2 ans après sa création, le MGC organisait ce samedi sa première convention à Mossou, le village natal de l'ancienne première dame. Un événement à la gloire de Simone Eyvé. Benoît Almeras était sur place pour RFI.
Plusieurs centaines de sympathisants du MGC sont rassemblés sous des tonnelles. Un seul but, soutenir Simone Eyvé à l'image de ses 2 militants.
C'est une femme très battante. Elle a fait ses preuves aussi dans la République de Côte d'Ivoire et aux côtés de son ex-mari. Et il faut qu'elle soit à la scène au pouvoir pour que le monde entier sache que les femmes aussi savent diriger.
Elle a des bonnes idées. Et ces idées-là, nous voulons qu'elle mette ça au service de la nation, la Côte d'Ivoire.
Après plusieurs heures d'attente, la candidate apparaît enfin. À ses côtés, à la tribune, des cadres de l'opposition, un vice-président du PDCI-RDA ou encore le chef du COGEP, Charles Blégoudé, actuellement inéligible.
Vous avez fait le tour de tous les leaders des partis politiques. Vous avez appelé pour nous rassembler autour d'Idéo.
Dans son discours d'une demi-heure, Simone Eyvé va présenter ses priorités.
Je vous parle avec le cœur.
La réconciliation nationale à travers une amnistie, la souveraineté alimentaire, l'industrialisation ou encore l'instauration de services militaires et civiques obligatoires. Face à la presse, Simone Eyvé évoque ensuite la campagne présidentielle à venir.
Je suis sûr que d'ici le moment des élections, il y aura des rapprochements encore qui se feront.
Un rapprochement avec M. Laurent Gbagbo.
C'est une personnalité politique. On discutera si la chose est possible.
L'ancienne première dame a moins d'un an pour convaincre. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Au Mali, les rebelles nordistes, jusque-là réunis au sein du CSP, le cadre stratégique permanent, annoncent la dissolution des 4 groupes existants au sein d'une nouvelle organisation. Le Front de libération de l'Azawad a été créé à l'issue de 4 jours de congrès à Tinzawaten. Selon un communiqué publié ce samedi, objectif, la libération et l'autodétermination de l'Azawad. En Namibie, les opérations électorales ont finalement pris fin ce samedi après 4 jours. Elles ont été prolongées depuis mercredi en raison de multiples défaillances dans le système de vote. Des élections chaotiques alors qu'elles étaient annoncées comme les plus serrées depuis l'indépendance du pays en 1990. Bonsoir François Mazet.
Bonsoir Zéphirin.
Pour la première fois, l'ex-mouvement de libération, la SWAPO, n'est pas sûr de l'emporter. Et d'ailleurs, le principal adversaire de la candidate du parti au pouvoir a affirmé dès ce soir qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats qui doivent être annoncés par la commission électorale.
Oui, nous ne pouvons qualifier ces élections de libres, équitables et légitimes. C'est ce qu'a dit Panduleni Itula dans sa déclaration en fin de journée. En conséquence, l'opposant affirme qu'il ne reconnaîtra pas le résultat. Et quel que soit ce résultat, précise-t-il, ancien dentiste, avocat, âgé de 67 ans, arrivé deuxième en 2019, Panduleni Itula a expliqué devant la presse vouloir l'annulation des élections et l'organisation d'un nouveau vote pour, je cite, « garantir que le peuple namibien aura l'occasion d'exercer son droit démocratique ». Il a appelé le président du pays, N'Golo Mbumba, à réunir son cabinet pour trancher sur ce qui doit être fait. Ce samedi encore, de nombreux Namibiens ont tenté de glisser leur bulletin dans l'urne, mais depuis mercredi, c'est un véritable casse-tête, raison pour laquelle les opérations se sont prolongées. La participation semble importante, car pour la première fois depuis 1990, bénéficient la victoire de la SWAPO, représentée par Netumbo Nandi Daitwa, une cadre de l'organisation depuis un demi-siècle, n'est pas du tout acquise en raison de problèmes de chômage des jeunes et des questions sur la redistribution des terres et des richesses dans le pays.
Merci François Mazet. La demande de l'Éthiopie d'un accès à la mer est légitime selon une source diplomatique française citée par l'agence France Presse. Ce texte signé en janvier dernier prévoit la location pour 50 ans à l'Éthiopie de 20 km de côte du Somaliland, qui a unilatéralement proclamé son indépendance de la Somalie en 1991. Les autorités somalilandaises affirment qu'en échange de cet accès à la mer, l'Éthiopie deviendrait le premier pays à reconnaître officiellement leur république. La Somalie considère cet accord comme une violation de sa souveraineté. Ce dimanche, l'Afrique du Sud prend officiellement la présidence du G20 avec cette devise « solidarité, égalité et durabilité ». Après l'Indonésie, l'Inde et le Brésil, c'est la quatrième année consécutive qu'un pays du Sud global est à la tête de ce forum économique qui rassemble 85% du produit intérieur brut mondial. C'est aussi la première fois qu'un pays africain prend la tête du G20. Les précisions de Valentin Hugues.
Être une voix pour l'Afrique au milieu des plus grandes économies du monde, voilà le mot d'ordre. L'Afrique du Sud compte bien s'assurer que les intérêts économiques du continent soient au centre des discussions, avec la volonté de s'attaquer aux inégalités et aux écarts de richesse. Concrètement, à partir de la semaine prochaine, 130 réunions vont avoir lieu à travers le pays, entre les représentants des États du groupe des 20, la Banque centrale, le Trésor public, mais aussi des organisations civiles pour représenter les femmes ou la jeunesse par exemple. Ces groupes de travail chercheront des solutions pour avancer en termes de croissance inclusive, sécurité alimentaire et intelligence artificielle, les trois priorités avancées par l'Afrique du Sud. Après un an de réflexion, le sommet des chefs d'État aura lieu à Johannesburg. À Rio, cette année, ils se sont par exemple mis d'accord sur la création d'une alliance globale contre la faim et la pauvreté. Au-delà de l'événement, l'Afrique du Sud mise aussi sur ce G20 pour prouver son sérieux et attirer les investisseurs étrangers, sur les plus de 10 000 personnes attendues pour booster son économie et sur cette vitrine internationale pour attirer plus de touristes du monde entier. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Chaque année, le prix Raoul Folraud de l'Académie française récompense une personnalité engagée dans la lutte contre la lèpre, une maladie infectieuse qui se manifeste notamment par des lésions sur la peau et qui peut entraîner une stigmatisation des malades. Jeudi, le prix a été remis à titre posthume à Sœur Joanie pour son engagement auprès des malades de la lèpre à Madagascar. Cette infirmière, responsable du centre de santé d'Ampas dans le sud de la Grande-Île, est décédée en juillet dernier. Le docteur Bertrand Cauchois, médecin conseiller de la Fondation Raoul Folraud, résidait jusqu'à il y a quelques mois à Madagascar, où il appuyait le programme national de lutte contre la lèpre.
La lutte contre la lèpre, depuis la nuit des temps, elle a souvent été soutenue par des congrégations religieuses, notamment catholiques, et c'est le cas à Madagascar, où dans une misère extrême, lutter contre la lèpre sans s'associer à ces congrégations religieuses qui drainent les malades et qui leur apportent tout le réconfort derrière les traitements, ça serait quasiment impossible. Donc Sœur Joanie, elle animait un gros centre de prise en charge des malades de la lèpre dans le sud du pays. Et donc cette sœur, elle était sur les soins, sur l'accompagnement pour l'éducation des enfants, sur tout un processus de réinsertion des malades et engagée aussi sur les populations pour essayer de prévenir la maladie et l'exclusion. C'est une maladie très stigmatisante, c'est une malédiction divine, c'est une sorcellerie. Malheureusement, c'est encore des croyances qui demeurent à Madagascar. Et du coup, l'action des sœurs qui vont, par exemple, construire des écoles, ils voient que les sœurs font un boulot formidable et on arrive un petit peu à banaliser cette maladie dans les endroits où sont basées les sœurs.
Propos recueillis par Magali Lagrange. Le Sénégal vient de remporter son troisième match de suite à la CAN féminine de handball. Les Lyonnes se sont imposées face à l'Égypte 21-16 lors de la troisième journée. Un match très disputé avec une deuxième période dominée sans partage par les Lyonnes. Ce parcours sans faute vient confirmer en tout cas la domination des Sénégalaises dans le groupe A des Lyonnes qui affirment de plus en plus leur ambition qui est d'aller le plus loin possible dans cette compétition, la toute dernière pour l'arrière droite Doungou Camara.
Ça a été un gros match de travail. On a vraiment travaillé. On a été mis dans de vraies conditions pour pouvoir nous évaluer. Les premiers matchs qu'on a eus, ça a été des équipes abordables pour nous en entame de compétition. Et l'Égypte, en tout cas, ils nous ont mis face à un bon exercice aujourd'hui et on a sur le relevé haut la main. Je pense que le retour du vestiaire, on s'est dit que c'était le moment pour pouvoir enterrer le match. Et c'est ce qu'on a fait. Ça a été la consigne du coach de ne pas lâcher et ça a été respecté haut la main et la victoire est au bout. Il nous reste encore deux matchs contre l'Algérie et le Congo. C'est de bons adversaires.
L'arrière droite de la sélection sénégalaise d'Ungu Camara, propos recueilli par Olga Massangou. Et puis dans ce même groupe A, le Congo-Brazzaville a battu l'Algérie 24-17. Il est 23h40 ici à Paris. Excellente soirée à l'écoute de Radio France Internationale.